Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue en direct jusqu'à minuit sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Évidemment, l'After est là avec vous, l'After Première Radio de France le soir, l'After espace de liberté pour tous les supporters et les acteurs du foot. Comme Stéphane Guy, par exemple, acteur du football depuis maintenant quelques années.
Depuis combien de temps, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté sur RMC en général et dans l'After en particulier.
Mais depuis combien de temps tu es un acteur du foot?
Si tu comptes ma première licence au CS Alençon et puis ensuite à OSC Damigny ou comme journaliste. Je commence dans les années 90, milieu des années 90, comme toi, Daniel, non? À peu près.
Parce qu'il faut savoir.
Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir, les amis. Cette semaine, l'After devient majeur.
Et demain.
Nous fêtons nos 18 ans.
Demain, l'After aura 18 ans.
J'aurai ce privilège d'être avec vous demain soir.
Ça m'angoisse complètement.
Je vais vous amener un gâteau à souffler.
Ça m'angoisse. À 18 ans, c'est il y a longtemps, je sais pas, on a vieilli, tout ça, ça t'angoisse pas, toi? Alors lui, c'est le faux cul. Alors lui, tu sais, c'est
un bronze, Gilbert, rien de le perdre.
J'ai rien dit.
Je vais te dire pourquoi c'est un faux cul, parce que moi, tu sais, avant qu'il ait parlé, je sais ce qu'il va dire. Alors lui, on n'a pas le droit de lui dire mon anniversaire, il veut pas en entendre parler. Ah. Son anniversaire, c'est jamais la date, tu vois, elle est un peu comme ça. Il faut chercher pour la trouver.
C'est privé, quoi.
Lui, il aime pas, il aime pas, machin. Mais là, on n'a pas le droit d'être angoissé parce qu'on vieillit, tu vois. 18 ans d'émission, tu te rends compte?
Non, c'est beau, c'est une belle longévité.
Bah non, moi je trouve que c'est.
Mais j'ai pas dit que c'était pas beau. J'ai dit que ça m'angoissait, mais j'ai pas dit que c'était pas beau. Évidemment que je suis très content de ça. Mais quelque part, c'est un peu. Voilà.
On aura quand même pu se faire lourder au bout de 3 mois. Hein. On est toujours là, 18 ans après.
Il y a Téléfoot de plus vieux que l'After?
Ah bah quand même.
Ah, dans les émissions de foot?
Ouais.
Ouais, je pense que Téléfoot, oui.
Bah, Téléfoot, c'est 77, Pierre Johnny. Donc
l'émission de Canal n'existe plus.
Le jour de foot,
ça n'existe plus.
Ça existe sous un nom, mais
la version originelle, non, n'existe plus.
Avec le même nom, non, ça n'existe plus.
Si, avec le même nom, le nom est resté, parce qu'il y a encore, je crois qu'il y a encore un jour de foot.
Ah bon?
Le soir sur Canal Plus Sport, ou quelque chose comme ça, ouais.
Stade 2 existe toujours.
Ouais. Ah oui, non, mais là, c'est des.
Ah oui. Mais c'est pas une émission de foot, c'est un multisport.
C'est à quelle heure maintenant, stade 2?
Ah, ça, je sais pas. Il faut demander quand Flo Gautreau.
Si, c'est en prime, je crois, c'est vers 20h maintenant le dimanche.
Non? D'accord. Bon, ce soir, évidemment, analyse du match du PSG, le PSG en finale de la Coupe de France. Et puis, tout à l'heure, on aura avec nous Julien Laurence parce qu'il y avait les matchs en Angleterre ce soir, les gars. Sachez que City est actuellement en train de battre Aston Villa 4-1 en étant le temps additionnel. Il y a Arsenal joué un peu plus tôt. Arsenal a gagné également face à Luton.
Triplé de Phil Foden encore avec Manchester City.
Ah.
Qui va être l'une des grandes attractions de l'Euro, mais Julien parlera mieux que moi.
Bon voilà, ce sera tout à l'heure. Et évidemment, l'actu du jour sera également au rendez-vous. Et puis j'ai également un résultat en Allemagne. Hier, Polo nous parlait de Leverkusen qui a battu Düsseldorf 4-0 en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Donc ce sera Leverkusen en finale face à Kaiserslautern. Fiorentina, Atalanta, ce sera également
Bayern,
demi-finale.
Allez,
Leverkusen, PSG, même combat.
Oui.
1-0 pour la Fiorentina, c'est fini. Et puis il y avait également du foot au Portugal ce soir. Porto mène 1-0 à Guimarães, demi-finale aller de la Coupe du Portugal. Direct Studio vous attend pour nous envoyer vos messages. Messieurs, dames, n'hésitez pas à utiliser notre messagerie sur les applis RMC et RMC Sport, appli qui vous permet de télécharger les podcasts. Je rappelle que les podcasts de l'After sont toujours là pour vous sur les applis RMC et RMC Sport. Bon, on avait la plus belle affiche des demi-finales. Enfin, théoriquement, la plus équilibrée.
On fait 3 points, là.
T'as préparé
les
3 points?
Non, bah, je sais pas. On fait pas les 3 points. Ah, c'est championnat, les 3 points, parce que là, c'est une qualif. Donc
d'habitude, on a 50 minutes d'émission. Donc, on va direct à l'essentiel.
Alors, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ce soir? C'est que, à part le premier quart d'heure, on a cru qu'on allait voir un match sur un rythme un peu enlevé. On s'est très vite ennuyé. C'est ça, l'essentiel. Effectivement, le Paris Saint-Germain dans les premières minutes,
grande maîtrise du PSG quand même. Pendant une heure, ils ont été
ils n'ont pas été inquiétés. Mais
non.
C'est
sans doute l'un des matchs les plus faciles qu'ils aient eu à jouer contre Rennes dans l'histoire récente, parce que Rennes, c'est toujours une équipe qui leur a posé des problèmes, même quand ils les ont battus. Là, ce soir, c'était un Rennes inoffensif.
Et c'est ça qui est fou, parce que sur un match couperet où peuvent jouer quelque chose d'assez énorme, à savoir aller faire une finale de Coupe de France, qu'ils soient venus avec aussi peu d'intention, bloc bas comme ça, à subir en espérant une pauvre contre-attaque. Les Rennais m'ont profondément déçu, moi qui les tenais en très belle estime ces derniers temps. Bon, après, je reviens au PSG.
Il y a sans doute une cassure. Enfin, on en reparlera plus tard, Daniel, mais dans la saison rennaise, parce que là, ça fait deux matchs décevants de suite.
Ouais. Moins bien.
Certes, ils ont plus d'énergie, etc. Mais
je t'avoue que j'ai pas fait le lien avec leur dernière sortie, parce que à chaque fois, je me suis dit leur dernière sortie. Ouais, c'est vrai, ils jouaient mal, mais est-ce que c'est pas ça tient pas tellement la route ce que je vais dire, parce que accident contre Lorient, accident contre Strasbourg, quand il y en a deux, c'est plus tellement accident. Mais comme je les avais trouvés tellement bons depuis janvier, j'avais envie de rester positif. Ouais. Là, le match de ce soir vraiment me plaît pas du tout de leur part. Mais je reviens au PSG. Il y a eu ce premier quart d'heure que j'ai trouvé très intéressant, avec beaucoup de mouvements. Et là, pour le coup, je prends pleine face, moi qui ne comprends rien à la tactique et à Géotrouve-tout, je prends pleine face les mouvements permanents, les positions folles des joueurs. Là, je prends une vraie leçon de football. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, à chaque fois, et vraiment en plus, je pars dans l'idée d'être hyper positif. Je me dis, ah, là, c'est vraiment intéressant parce que, bon, on s'attend à ce que ce soit Lee qui fasse le quatrième milieu de terrain, mais en fait, c'est Hakimi. Après, il étale l'attaque de cette façon. À un moment, il y a quasiment une ligne de quatre. Ils sont plus que deux derrière. Ça bouge dans tous les sens. Vraiment, là, pendant un quart d'heure, je suis limite à tellement me casser la tête à essayer de comprendre que je suis allé chercher des doliprane, tu vois. J'ai pris deux doliprane pour me calmer un peu. Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, je dis bon, ok, très bien, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert par rapport au jeu? Qu'est-ce que ça donne de plus au PSG que de faire cette espèce de grand cocktail? Non, après, il y a plein de trucs dans le shaker, il secoue et puis il jette et puis ça ressemble à un feu d'artifice et puis au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus rien.
T'as un grand paradoxe dans la première mi-temps du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu la plupart des offensives sont venues de la droite et des animations côté droit qui finalement n'ont pas abouti à grand-chose, et les seules fois où le PSG a vraiment été tranchant et dangereux, c'est comme d'habitude, côté gauche, Mbappé.
Ah oui, non, mais
c'est tout le paradoxe de cette première période qui était pourtant une première méthode bien maîtrisée par le Paris Saint-Germain. Mais finalement, qu'est-ce qui a abouti des offensives côté droit du PSG? Quasiment rien.
Le problème, c'est que je ne comprends pas. Ce côté droit, alors évidemment, il faut changer.
Avec Hakimi, avec Lee, avec Dembélé,
il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas. Mais Hakimi, Dembélé, ça a été un point fort, ce côté droit. C'est terminé, nous ne l'avons plus, ça n'existe plus. Ce côté droit Hakimi Dembélé n'existe plus, il n'en veut plus. Comme si c'était trop bien, qu'il fallait plus le voir.
Ah, trop bien, en même temps, tu as vu Hakimi ces derniers temps? Est-ce que tu vois...
Je sais bien, mais dans ces cas-là, Hakimi est moins bien. Dembélé, à droite, il n'en veut plus, il le met dans l'axe. Dans l'axe, Dembélé, ce sera toujours la même. À un moment dans le match, il va éliminer 5 mecs pour mettre une fringue en tribune. Après, derrière, il va perdre 3 ballons dangereux. Mmh. Et tu vas finir en te disant, bon, dès qu'il veut allumer le jeu, il allume le jeu parce que avec son talent, il est capable de faire des trucs fous.
Incroyable.
Et puis, le problème, c'est qu'après, ça se termine toujours mal. Et après, à la fin du match, qu'est-ce que tu te dis? Ah, bah le PSG a gagné parce qu'il y a un ballon qui est arrivé sur la gauche et qu'après avoir raté un péno et un face-à-face, qui quand même est très gros comme raté pour lui, il a quand même fini en ayant pas mal de réussite sur une frappe déviée à marquer le seul but du match. Mmh. Bon, voilà.
C'est plutôt un but contre son corps d'ailleurs.
Voilà. Donc, après avoir secoué, avoir remué... Donc,
elle a cadré la frappe de Mbappé.
Et effectivement, m'avoir fait comprendre que je ne comprenais rien aux schémas tactiques qui sont beaucoup trop élaborés pour moi. Moi, à chaque fois, je suis là, toute la deuxième mi-temps... Ok, il y a de la possession, on garde le ballon. Bon, Rennes est faible ce soir aussi, mais je vois pas à quoi sert tout ça. À quoi sert tout ça?
Voilà, ce soir ça sert bien à gagner.
Ruiz à un moment
ça sert bien à gagner. Daniel, ça vient ce qu'il fait pour la finale de la Coupe de France. C'était la feuille de route
Dans le jeu.
Oui, est-ce qu'il prépare la suite en procédant ainsi?
C'est sûr que ça prépare la suite. Ça fait 6 mois qu'on prépare la suite. La suite de quoi? Je ne sais pas. Non, mais moi je parle de qualité de jeu, puisque c'est ça quand même qui est important. Puisque lui, c'est un faiseur de jeu. Lui, c'est quelqu'un qui aime le beau jeu, qui se revendique. Il n'invente pas pour inventer. Il invente pour proposer un vrai jeu. Voilà, il y a plein de questions toujours en suspens. Et Asensio, il se passe quoi avec Asensio? Parce que soit il est, alors c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé et tout, mais là bon il rentre, ça fait deux matchs où il rentre.
Je sais
qu'il doit revenir de blessure, mais qu'est-ce que Asensio, mais on a l'impression qu'il revient toujours de blessure. À un moment, il va falloir qu'il arrête de revenir, quoi. Qu'est-ce qu'il a de moins que Lee? Et qu'est-ce que Lee a fait pour mériter d'être titulaire? Autant au début de la saison, son dynamisme, sa volonté me séduisait, mais au bout d'un moment, tu dis bon, il va passer le cap, il va arrêter, on va pas juste être dans le mouvement, la séduction, hein, qu'il va faire. Non, en fait, il fait rien.
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il faut se pencher sur les stats des joueurs. Moi, je suis désolé, c'est incontournable. Et tu vois les stats de Dembélé, les stats de Lee, etc. Tu te dis, oui, ça va pas. C'est pour ces joueurs-là. Pourtant, Dieu sait qu'il nous donne des frissons. Dembélé, hein, il a fait 2-3 mouvements ce soir complètement incroyables. Mais à l'arrivée, depuis le début de saison, c'est un but, c'est 4 passes décisives.
Bon. Et toujours cette fameuse stat que tout le monde rappelle, que Neymar a marqué plus de buts que Dembélé cette année.
C'est vrai.
Oui, c'est un match amical en juillet. Neymar a doublé contre des Coréens.
Non, mais et à l'arrivée, le bilan du match, malgré tout, ça va chagriner certains, mais c'est ainsi. C'est Mbappé. Et toutes les.
Ça chagrinera pas les supporters du PSG qui sont très contents.
Toutes les frappes cadrées du PSG, c'est Mbappé. C'est quand même incroyable.
On a Adam qui est là. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
T'es d'accord avec ce que t'as entendu jusque-là, dans l'analyse du match, là ?
Pas tellement, parce que j'ai apprécié dans la qualité du jeu la première mi-temps du PSG, où ça jouait beaucoup à droite. Mais justement, je trouve que le jeu qu'on crée à droite avec Lee, Hakimi et Dembélé, c'est ce qu'on demande à voir, et c'est ce qu'on veut voir, et c'est ce qui normalement devait avoir un but à la fin. Parce que c'est pas normal ce que Dembélé rate. Pour moi, je pense qu'il fait exprès au bout d'un moment. Je pense qu'il fait exprès, honnêtement, qu'il a fait des paris avec ses potes. C'est pas normal d'éliminer 3-4 joueurs comme ça, et après on voit une balle en tribune comme si c'était normal, comme si c'était pas la 10e fois cette saison. Pour moi, c'est pas normal. Maintenant, le côté droit, moi, je l'aime bien. Mais le problème, c'est que, comme vous avez dit.
Lui, il a fait un bon match aujourd'hui ?
Non, lui, il a pas fait un bon match.
Lee ?
Ouais.
On ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, quand même.
Il démarre bien, et puis après, il commence
à. Si Lee a fait un bon match ce soir, là, pardon, mais là, évidemment.
Sur Dembélé, quand même, il y a un truc. Il y a quelque chose qui se joue quand même dans la tête, parce que.
Ah, bah lui, oui, il est en sous-confiance totale.
Non, mais au-delà de ça, Daniel, même sur la façon dont il joue au foot, c'est-à-dire que tu as une sorte de spontanéité. Et de talent comme ça, les super dribbleurs comme ça, c'est des mecs qui réfléchissent pas, en fait. C'est un peu le corps qui part, en quelque sorte.
C'est une spontanéité, forcément.
C'est une spontanéité. Mais sauf qu'au bout d'un moment, t'as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que, est-ce que t'as intérêt à partir dribbler 5 gars ou donner la bonne passe? Est-ce que t'as intérêt, à baisser la tête et à faire parler ton corps et pas ta tête? Enfin, tu vois, moi, je sais pas. Alors,
mais en fait, le problème, c'est que c'est pas non plus le.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je ne veux pas dire non plus qu'il fait pas un bon match. Je trouve qu'il fait. En fait, son souci, c'est d'être toujours entre les ratés.
Plus sa tête.
La balance entre le bien et le pas bien dans un match, elle est toujours légèrement positive en ce qui le concerne. Il est toujours, on va dire, à 5,5, 6.
Surtout quand tu te poses la question, je le mets ou je le mets pas, tu te dis je le mets.
Ah oui, tu le mets tout le temps.
Voilà, tu vois,
tu le mets tout le temps.
Finalement, c'est ça, quoi. Tu te dis, ça, c'est autant Lee, tu peux te dire ce soir, je le mets ou je le mets pas, ou. Dembélé, non. Dembélé, la question,
c'est. Oui, je suis d'accord, tu dis je le mets, mais au final, souvent, finalement, tu dis quand même. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en plus qu'il n'a pas fait? Parce qu'à chaque fois, c'est ça.
Bah, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'à un moment donné, il en passe 4 et qu'il est, le but est grand ouvert face à lui et qu'il envoie une saucisse dans les tribunes, quoi.
Juste pour revenir sur Dembélé. Dembélé, à la limite, je pense pas que c'est un problème de confiance, parce que c'est pas la.
Ah, si, bien sûr que si, c'est ça.
C'est pas le.
Il est en sous-confiance au moment de la frappe, bien sûr.
Alors, depuis combien de temps? Depuis qu'il a signé au Barça? Parce que cette stat au Barça, en termes de but, c'est. En termes déjà de match joué, c'est pas énorme. Mais
il a un problème dans la finition. La finition, on sait que c'est et du travail devant le but et beaucoup de confiance. C'est tous les attaquants te le disent. Ça, c'est une répétition des gestes à l'entraînement, bosser pour la finition. Et ensuite, ça tient énormément à la confiance. Et évidemment que Dembélé est en sous-confiance dans la finition. Et c'est presque trop gros ce qu'il rate. Mais encore une fois, à côté de ça. C'est impossible déjà d'une. Stéphane a raison de dire je le mets pas. Tu le mets pour tout ce qu'il est capable d'apporter comme différence. Et ensuite, en même temps, il est très maladroit.
Là où c'est surprenant effectivement, c'est que il y avait cette connexion avec Kimi Dembélé classique, hein, l'ailier avec le latéral et on dédouble, etc. Effectivement, il a enlevé ça du jeu du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Et c'est vrai que ça interpelle parce que ça marchait bien. Et Dembélé semblait, lui, bien aussi dans cette relation-là, quoi. Même oui, s'il est bien, il a une bonne relation avec les autres,
hein, parce que c'est quand même un joueur, tu changes les joueurs de place.
Hakimi, Dembélé, c'est Hakimi le problème. Parce qu'en fait, Dembélé, il est globalement le même depuis le début.
Mais c'est pas parce qu'à un moment, les choses se sont bien passées.
Oui, mais Hakimi, il a des ordres, visiblement, d'aller dans l'axe, quoi.
Voilà, parce qu'à un moment, Hakimi a été moins bien.
Il fait plus un centre, Dembélé.
Moi, l'idée de tu changes les mecs de place parce que tu les fais bosser sur autre chose, parce que tu les épanouis plus, parce que. Ok, très bien, mais est-ce qu'à l'arrivée, il y a réellement quelque chose de mieux dans le jeu? C'est ça, moi, tous ces gens qui disent, qui sortent des théories, je vais pas dire son nom, mais c'était très intéressant ce qu'il m'a écrit. J'ai un militaire qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire que en fait,
pas le général de Gaulle, non.
que ce que faisait Luis Enrique, c'est également ce qui peut se faire dans l'armée. Je vais essayer de résumer en substance ce qu'il écrivait, c'est de former les gens à plein de postes différents. Pour parer à différentes situations et être prêt en fonction des. J'ai... Ok, mais très bien tout ça, mais j'ai l'impression qu'on se casse la tête. Mais il y a tellement de gens qui se cassent la tête parce que c'est très à la mode. Alors, je veux dire, dans l'after, on a été les premiers à parler de tactique, à chercher des élèves, de s'intéresser au travail des entraîneurs il y a plus de 10 ans. Je vais pas renier ça, mais parfois, il faut juste se demander quel est le point positif. D'une réflexion. Là, je vois bien qu'il y a 1000 trucs qui sont proposés, qui sont inventés, qui sont bricolés, mais est-ce que dans les faits, le PSG joue vraiment bien et propose un très bon football? J'ai pas l'impression que Dembélé s'épanouit plus dans ce poste qu'au début de la saison quand il était
ailier droit. Non, mais ce soir quand même, Daniel, il fait un bon match quand même.
Oui, mais je te dis pas qu'il fait pas un bon match.
Face à un adversaire assez résigné, mais c'est un bon match.
Face à un adversaire résigné et bon, c'est un bon match, mais c'est pas, enfin, en termes de spectacle, on n'est pas non plus renversé. Oui,
c'est sûr.
La deuxième mi-temps,
c'est sûr que ceux qui pensent que si Arsenal n'est pas un bon match et qui ont regardé PSG Rennes ce soir et qui me disent que ça c'est un bon match, mais on n'a pas la même vision du foot.
Sur la deuxième mi-temps, on s'ennuie.
Mais c'est à l'arrivée. Là, je regardais mon téléphone et je m'en excuse, mais je regardais les stats parce que le stade de frappe.
Quand tu regardes ton téléphone, c'est pour des bonnes raisons.
Oui, pas toujours.
Pour avoir des informations.
Non, pas toujours. Mais là, je parce que à l'arrivée,
tu regardais pas un documentaire sur Colombey les deux églises.
Non, en rentrant dès que je rentre. blague à part, il y a 10 tirs pour Paris, 9 pour Rennes ce soir. Tu vois, il y a 6 tirs cadrés du PSG. Moi, j'ai déjà en tête sur les 6 tirs cadrés, il y en a 4 pour Mbappé. Peut-être qu'il y en a un ou deux autres qu'on fait un tir cadré, mais ça c'est pour moi une vraie problématique pour Paris quand même, parce que c'est quand même on prépare l'avenir, mais on prépare
donc
l'avenir
malgré tous les essais et les changements tactiques et tout, finalement on en revient toujours à un joueur,
à la base,
un peu totem qui fait la différence.
Mais la première mi-temps du PSG, c'est ça, elle est bonne, la première mi-temps
et le rate. Ouais. Par son accélération, on va dire le classique du classique, va se procurer une occasion qu'il rate. Donc à ce moment-là, il est sur deux échecs.
Ouais, enfin, un peu commun pour lui. Dans les deux cas, Daniel, il y a un gardien qui est très bon. Hein.
Pour lui, c'est rare. Ouais, enfin, c'est rare.
Mandanda fait très sur le penalty, oui, notamment. Mais, il est pas mal tiré le penalty.
Je trouve pas super bien tiré. Bref, néanmoins,
on va reparler de
sur la troisième. Bon, ben c'est lui qui marque. Donc il y en a plein qui adorent se casser la tête. Ils sont là, la tactique, machin, mais ils sont dans la branlette intellectuelle. Je jure, c'est fou, hein, vraiment. Et,
bon les gars,
je suis prêt à
courte pub.
Ils peuvent m'expliquer.
Moi, je veux bien que ce soit.
Il y a deux.
Il y a deux.
Vous voulez pas la faire, la courte pub?
Deux hypothèses. Soit c'est de la branlette intellectuelle, soit c'est l'ego. Moi, c'est ce que je constate, pas seulement chez Enrique, chez beaucoup de coachs aujourd'hui dans le foot d'aujourd'hui.
Ah, ça, c'est
que
très à la mode, ça.
Le coach veut être celui qui est l'initiateur de tout, toi.
En fait,
il y a des fois des choses très. Et c'est pour ça, on aime ça. On aime ça hier parce que c'est. Oh, bah, évidemment, c'est pas le même pédigré que Enrique, hein, Pierre Sage, mais on a le sentiment que, justement, lui. Où on aime Ancelotti, voilà, on va prendre des hommes comparables, on aime Ancelotti au Real parce qu'on a toujours on n'a jamais ce sentiment-là, jamais que lui, Ancelotti, il veut jouer au génie qui va gagner les matchs.
On a eu une bascule qui est, nous, en plus, vraiment, je me souviens très bien dans l'histoire de l'after, parce qu'au début, on parlait énormément de ces choses-là et on disait qu'il y avait très peu de réflexion chez les entraîneurs qui jouaient souvent un peu de la même façon. Et nous, on adorait justement aller
voir. Tu parlais de la Ligue 1 ou tu parlais des entraîneurs
Même en général, il y a eu une bascule Guardiola.
Oui,
Guardiola a été monumentale. Accompagnée.
Guardiola et Bielsa.
Accompagnée de Mourinho aussi, ouais. Qui dans un autre genre.
Avant.
Quand les deux, nous, on arrive en 2006, les deux commencent à se tirer la bourre jusqu'à 2010, qui est le grand tournant, le fameux 5-0 de novembre 2010, où là, on a carrément la nouvelle opposition de style qui se détache. Et en fait, derrière. On a eu une bascule où tout le monde s'est intéressé à la tactique. Dans n'importe quel commentaire de foot, même dans le public, des gens qui ne regardaient jamais ce genre de choses-là, on se sont mis à regarder ce qu'il fait. Là, il fait ci, il est à deux défenseurs, le latéral qui monte, qui vient dans le milieu. Guardiola, pour ça, a été mais plus que précurseur, hein, un véritable génie. Nous, je l'ai toujours. Sauf que la bascule et le paroxysme, c'est que derrière, il y a eu plein de gens qui se sont mis à vouloir tout expliquer. Ou ces coachs, justement, mais tu sais, ces coachs-là, tu les amènes dans le football amateur. T'as dans le football amateur des mecs aujourd'hui qui se prennent exactement comme tu as le syndrome Mbappé, tu as le syndrome Guardiola. Des coachs en football amateur, mais qui ont des boulards énormissimes à te dire qu'ils inventent un truc, ils veulent copier, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça.
Les gars, le projet parfois, de jeu. Maintenant, il n'y a plus un coach qui ne te parle pas de son projet de jeu.
Que moi, je dise ça, alors que j'ai milité pendant des années projet, pour la réflexion dans le foot.
Ouais, c'est
le
projet de jeu.
Il ne faut pas que ça devienne un péché. Il ne faut pas basculer dans le paroxysme absolu qui est la caricature de soi-même.
C'est bien qu'il y ait de la réflexion.
Mourinho est tombé dans la caricature de lui-même. Ouais. Il ne faut pas que les autres, dans la volonté d'imiter Guardiola et tout, basculent dans la caricature d'eux-mêmes.
Si tu regardes Guardiola, il perd une finale. Un peu quand même par son dogmatisme, et il en gagne une autre. Parce qu'il a évolué de ça, il a
bien compris
ça. Moi, c'est ce que je soulignais hier de Fonseca, c'est que justement, moi j'ai aimé que Fonseca cette année ne soit pas le même Fonseca que quand il arrive en France il y a un an. Voilà.
Dans un instant, Rennes au programme et l'évaluation, en plus la fameuse soirée du Sofitel. On a promis qu'on en parlerait ce soir.
Ah oui. Moi je suis venu pour ça, hein, Daniel.
Ah, vous allez être déçus, hein, parce que finalement, il n'y a pas grand chose. Moi, allez. Je m'attendais vraiment.
Du croustillant.
Ah, c'est pas tant ça.
RMC, l'after foot.